Il y a souvent une mauvaise appréciation de ce que peut être l'œcuménisme. L'œcuménisme, vous faites la différence avec le dialogue interreligieux. L'œcuménisme consiste dans cette communion à l'intérieur des disciples de Jésus, qu'ils soient protestants, orthodoxes ou catholiques. Ce sont des chrétiens. Et on a parfois une mauvaise interprétation de l'œcuménisme, comme si, d'une certaine manière, il fallait effacer les différences. Alors les catholiques, pour plaire aux protestants, ne parlent pas trop de la Vierge Marie, ne parlent pas trop du pape, les orthodoxes ne parlent pas trop de leur église souvent nationale liée à un pays. Les protestants disent la parole de Dieu, c'est plutôt nous qui en sommes les porteurs, du coup peut-être voilà, on va essayer de ne pas toucher les points sensibles et du coup on va être unis. Fausse bonne solution, parce que il me semble que l'œcuménisme, c'est tout à fait le rebours de ça. L'œcuménisme, cette communion entre les différentes confessions chrétiennes, c'est au contraire transmettre à l'autre quelle est mon expérience de Dieu. Elle se fait, cette communion, par le haut. Ce n'est pas effacer les différences comme pour ménager les susceptibilités, non. Dis-moi, toi qui es d'une autre confession chrétienne que moi, dis-moi ton expérience de Dieu, dis-moi ton expérience du Christ, dis-moi comment tu as rencontré le ressuscité. Et cette unité dont nous parle Jésus aujourd'hui, comme le Père et moi nous sommes un, et nous fêterons la Pentecôte dimanche prochain, elle nous met sur la piste de ce qu'est la vraie unité que l'on confond souvent avec l'uniformité. Céphale, l'uniformité de la tour de Babel. Vous vous rappelez la tour de Babel? Il voulait construire une unité aussi, d'une certaine manière, entre tout le genre humain, et qu'il n'y ait qu'un seul chemin pour aller vers Dieu et construire une tour qui monterait jusqu'au ciel, tous parler le même langage, avec la même vision, la même manière de voir les choses, avec la même appréhension de Dieu. Et le Seigneur est descendu et a reconnu que c'était une idolâtrie et a dit la Bible, avec sa manière de voir, a semé la différence entre les langages qui fait que les ouvriers ne se comprenaient plus. Comme si, pour aller vers Dieu, c'était absolument indispensable cette diversité pour ne pas tomber dans une forme de totalitarisme, d'une certaine manière. Regardez bien les grandes idéologies du XXe siècle ont toutes voulu promouvoir une unité. Le communisme, voilà quelle était la solution. On va tout mettre en commun. Il n'y aura ni pauvres ni riches, on sera tous ensemble. Le nazisme aussi, d'une certaine manière, national-socialisme, cette dimension aussi sociale. Voilà, on va avoir une race unie, on sera pareil. Et là, on sera unis. Et vous savez bien la destinée de ces idéologies qui ont toutes les deux terminé dans des bains de sang. Dès qu'on voit l'unité comme une uniformité, c'est mortifère. C'est mortifère parce qu'il y a quelque chose de l'autre que je n'accepte pas. Et donc de se poser la question, qu'est-ce que de l'autre je n'accepte pas et qui me pose difficulté à tel point que moi je veux que ce soit mon chemin pour aller vers Dieu, mon chemin pour le prier, ma manière de voir la liturgie, ma manière de voir, etc. J'aime bien cette phrase du pape Benoît XVI que l'on ne peut pas qualifier de relativiste. Vous savez qu'un relativiste, c'est à chacun sa vérité. Pas Benoît XVI, on lui, un journaliste un peu facétieux, lui disait, très Saint-Père, combien y a-t-il de chemins pour aller vers Dieu ? pensant que, en bon théologien, plutôt traditionnel, pape Benoît XVI allait dire un seul chemin à l'Église catholique. Eh bien, c'était sans compter, sans l'intelligence de ce grand théologien et ce grand spirituel, il dit, pour aller vers Dieu, il y a autant de chemins que de personnes. Autant de chemins que de personnes. Accepter la manière d'aller vers le Seigneur propre à chacun. Et à la fois, faire corps. C'est ça l'enjeu de l'Évangile d'aujourd'hui. Faire corps tout en acceptant la différence entre nous. Faire corps tout en disant qu'il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Et ça, c'est seulement le Saint-Esprit qui est capable de le faire, ce Saint-Esprit qui est capable d'unir justement des langages différents, on le lira au moment de la Pentecôte, où il s'exprimait chacun dans sa langue maternelle et tous se comprenaient. La Pentecôte, c'est l'anti-Babel. C'est exactement le rebours de Babel. Babel qui voulait qu'un seul chemin, qu'on soit unis mais par une seule manière de voir, une seule vision. Et la Pentecôte dit non, chacun dans sa langue maternelle était compris. C'est-à-dire que le Saint-Esprit me permet de comprendre chacun de l'intérieur. De l'intérieur, selon sa manière de voir, sa vision du monde, sa manière de prendre les décisions. De l'intérieur, quand on vit dans du Saint-Esprit, et c'est tout l'enjeu de notre vie spirituelle, quand on vit du Saint-Esprit, on accueille justement un autre chemin. Alors, comment garder l'unité? Parce qu'on se dit, mais du coup, c'est chacun, ça va être du grand n'importe quoi, chacun va aller dans ça, on va être complètement désunis. Et non, c'est justement ça, c'est le Saint-Esprit, c'est l'unité du Père et du Fils. Le boulot du Saint-Esprit, c'est de travailler à l'unité. Mais de l'unité à la manière de Dieu. Quand vous regardez bien, moi, ça m'a toujours marqué quand, dans mes études de théologie, quand on a étudié le mystère de la Trinité. Le mystère de la Trinité, c'est un mystère de communion, vous le savez. Mais quand on regarde bien, chaque personne divine est encore plus distincte de l'autre que n'importe quelle personne humaine entre elles. Le Père est différent du Fils, du Verbe. Le Verbe est complètement distinct de l'Esprit. Et à la fois, chaque personne divine est encore plus en communion que n'importe quelle plus personne humaine entre elles, même les plus amoureux entre eux. À la fois cette distinction, à la fois cette communion. Et c'est l'Esprit Saint qui unit le Père et le Fils, l'Esprit Saint et cet accueil, et vive de la Trinité, vivre de ce mystère chrétien tellement central dans notre vie, c'est justement comprendre cet appel de Jésus à l'unité. À l'unité, quand on contemple Dieu Trinité, cette unité, ce n'est pas un Dieu compact qu'on a au-dessus de nos têtes, non, c'est un Dieu qui est pluriel et qui est un à la fois. Ça veut dire qu'aussi que dans nos vies, il faut se garder, si on veut arriver à savourer un peu l'Esprit du Seigneur, il faut se garder de toute vision englobante. C'est intéressant que, par exemple, dans le judaïsme, pour ceux qui sont pratiquants de cette religion, observants, il est demandé quand on fait une maison, qu'on refait une pièce, vous faites le papier peint d'une pièce, et il est demandé de laisser un carré qui n'est pas fait. C'est intéressant, on se dit, tiens, mais bon, si on refait toute la pièce. Donc, il est demandé de laisser un carré avec l'ancien papier peint. Et on se dit, tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire justement que la personne humaine, à travers ce petit signe tout simple, se rappelle qu'elle n'est pas la totalité du créé. Se rappelle qu'elle a... Nous sommes, plus nous disons que Dieu est un, plus nous disons que nous sommes fragmentés. Et que cette unité, précisément, elle viendra par le dessus. Et c'est pour nous aussi l'invitation à accueillir cette différence, non pas comme une menace, parce que, j'allais dire, assez spontanément, nous avons cette manière de voir que la différence est une menace. Et il y a des différences qui nous coûtent, que nous n'aimons pas, mais le travail du Saint-Esprit, c'est de dire comment faire de cette différence un lieu de communion, tout en formant un corps et en acceptant le chemin de chacun. C'est le mystère de la Trinité. C'est le mystère de nos vies. C'est le mystère chrétien. On est au cœur du mystère chrétien avec ça. C'est ce que est venu Jésus annoncer dans son évangile, qu'il soit un Père comme toi et moi, nous sommes un. De se garder de toute vision englobante, de toute vision totale, parce que l'idéologie, elle est en nous. Et sortir de sa zone de confort, voir autrement les choses, se laisser déplacer, c'est pas du tout simple, c'est pas du tout spontané. Précisément parce que nous ne sommes plus en Dieu et que le péché originel nous a, dans ses conséquences, créé une peur de Dieu et du coup une volonté de contrôle. Une volonté de contrôle, on voit l'homme et la femme, on voit Caïn et Abel, une volonté de contrôle qui est ensuite mortifère, qui mène à la mort. Si nous voulons vivre de l'esprit de vie, de l'esprit du Christ, de l'esprit du Seigneur, eh bien c'est accepter d'une manière ou d'une autre de ne plus contrôler. Accepter que il y a plusieurs bonnes solutions. Il n'y a pas qu'une seule solution, ma solution. Ben non. Il y a plusieurs bonnes solutions à un problème. Que vous soyez, selon vos visions du monde, et encore là, nous sommes plutôt dans une logique européenne, mais voilà, vous iriez en Asie, c'est tout à fait une autre manière de voir les choses. Moi, j'ai vécu très longtemps en Amérique latine, c'est une autre manière, un autre rapport au temps très différent. Voilà, je trouve que c'est intéressant que nous nous mettions en chemin vers la Pentecôte avec cette conviction que justement ce déplacement intérieur, cet accueil d'une autre manière de faire, tout en ayant le même objectif, là où il faut être clair aussi, c'est être clair que nous visons la même chose, mais que, c'est-à-dire la communion avec Dieu manifestée en Jésus-Christ, mais que cette manière d'atteindre cette communion, elle se fait par plusieurs chemins. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est le travail d'une vie. C'est le travail d'une vie. Et justement, l'Eucharistie nous aide. L'Eucharistie, ça nous déplace intérieurement. Un peu de pain, un peu de vin, et après la consécration, la présence réelle du Seigneur, comment ne pas être déplacé intérieurement face à ce mystère? Et donc c'est une pédagogie que nous laisse le Seigneur sur l'autel, pour justement que nous nous gardions de toute manière, de toute puissance, une forme de toute puissance qui ferait que ma manière de voir, ben non, l'Eucharistie, c'est pas ma manière de voir, parce que c'est tellement, ça nous est tellement à la fois étranger, comment Dieu lui-même prend cette manière d'habiter parmi les hommes. C'est étonnant. On nous aurait dit, tiens, inventer une religion où il y ait un signe de Dieu parmi les hommes, nous n'aurions pas mis ça. Nous n'aurions pas pris cette méthode-là. Alors, demandons à Jésus, dans notre prière, de nous laisser déplacer. C'est-à-dire, le quotidien abonde d'opportunités pour que, justement, nous ne voyons pas la réalité de façon uniforme, que ce soit en famille, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans dans notre communauté aussi de paroisse, etc. Une communauté religieuse, avec Frère Jean-Pierre, nous sommes en communauté religieuse, et donc évidemment c'est le lieu de la conversion, de l'unité, et le lieu de l'accueil de l'autre, comme ce qu'on appelle l'altérité, l'autre est autre que moi. Et si j'accepte pas ça, c'est mortifère. Ça met fin aux relations. Demandons la grâce en ce mois de mai, de la grâce de façon particulière à la Vierge Marie. La Vierge Marie a, s'il en est une, qui a dû accepter le plan de Dieu de façon complètement inédite, qui s'est laissée déplacer intérieurement, c'est bien elle. Demandons-lui qu'elle nous aide à avoir une autre manière de voir, envisager événements et personnes, pour que nous répondions à l'appel de Jésus d'être vraiment un. Amen.